Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, sixième et toute dernière émission de notre série sur la mort avec un sujet d'actualité. Y a-t-il un droit au suicide ? Alors que les parlementaires français remettent sur le tapis la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, il convient de se demander sans parti pris ce qu'est le suicide, s'il peut être un droit, mais aussi en quoi pourrait bien consister un droit de mourir dans la dignité. Pour ce faire, nous lirons et commenterons le manifeste publié en 1979 dans le quotidien Le Monde par Michel Landa, fondateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui, je cite, « prône le droit pour chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté », c'est-à-dire, en clair, un droit de se tuer quand on veut et comme on veut. Mais que voulons-nous vraiment ? N'est-ce pas toujours un désir de vie qui nous pousse à ce geste désespéré ? Et comment la liberté ou la dignité pourrait-elle se reconnaître dans un acte d'autodestruction ? Pour entrer dans ces questions, écoutons le plaidoyer de Michel Landa pour un droit de mourir dans la dignité, lu par Clotilde Césari.
Si souffrance, misère et solitude possédaient quelques valeurs vénales, il y a longtemps qu'elles auraient payé pour que le droit de mourir s'inscrive dans la Constitution, aux côtés des autres libertés reconnues, sinon toujours vécues. Le droit de mourir dignement dans la lucidité, la tendresse, sans autres affres que celles inhérentes à la séparation et au glissement hors de cette forme de vie, ce droit devient un impératif évident, dès lors que la vie peut être prolongée jusqu'au dernier délabrement, et même au-delà. Qui s'aviserait de dénier ce droit à quiconque ? Personne, sauf toute l'organisation sociale et notre vision de la mort. Car qu'est-ce qui nous attend ? L'agonie est probablement la mort à l'hôpital, lieu inconnu, froid, impersonnel, sans grande souffrance peut-être, mais dans l'abrutissement des drogues, afin que le mourant ne dérange pas et que les survivants n'aient pas à vivre la tragédie d'une conscience qui disparaît. Une dimension essentielle de la condition humaine est ainsi occultée. Nous le sentons obscurément. Et nous nous disons que la mort doit être bien terrifiante pour être ainsi escamotée. Comment peut-on se dire libre et maître de son destin si l'on ne peut éviter la déchéance, sinon par un suicide solitaire, préparé en secret et dont l'issue n'est jamais certaine ? Bien sûr, je ne me permettrai jamais de devenir géniard, pusillanime et capricieux comme l'oncle machin qui réclame sa nourriture avec des cris perçants et bave en mangeant. Pas pour moi le destin de grand-mère sourde et aveugle qui se parle avec des petits bruits effrayés et qui ne quittera son lit que pour sa tombe. Pas moi le radoteur, le gâteux, le grabataire qui ne contrôle même plus ses sphincters, dégage une puanteur atroce et dont les fesses ne sont qu'une plaie vive. Une visite à un mouroir est fortement recommandée à tous ceux qui ne veulent pas entrer dans la vieillesse à reculons. Je leur garantis une vision saisissante de notre civilisation, une insulte à leur dignité, une remise en question fondamentale comme l'est la présence de certaines maladies mentales. Imaginons un instant une culture où la mort serait appréhendée comme la métamorphose qu'elle est réellement. Celle-ci serait ritualisée, à l'instar de la naissance ou du mariage, comme un changement d'état. Le droit de choisir l'instant de sa métamorphose serait accepté comme l'est devenu aujourd'hui, au moins légalement en quelques 20 ans, le droit pour la femme d'être maîtresse de sa fécondité. Chacun pourra donner à sa mort le cadre et le style qui lui conviennent, et exprimeront le mieux son destin propre. L'un convoquera toute sa famille, l'autre quelques intimes. On choisira de mourir un soir d'été à la campagne, au coin du feu, l'hiver, en regardant la télévision ou en écoutant Bach.
Fabrice Hadjadj, le droit de mourir dignement devient un impératif évident dès lors que la vie peut être prolongée jusqu'au dernier délabrement. Quel est le contexte de ce texte ?
Le contexte, c'est celui d'une société qui, effectivement, comme le dit Michel Landa avec beaucoup de justesse, a occulté une dimension essentielle de la condition humaine, la mort. On meurt alors à l'hôpital, ça c'est d'abord les conditions de la mort, c'est-à-dire jusqu'au dernier instant on ne veut pas admettre qu'il va falloir mourir, et alors on est dans un lieu qui est censé être tourné vers le soin et vers la guérison, lieu qui devient inconnu, froid, impersonnel, on ne meurt plus chez soi, on ne meurt plus à la maison, Donc ça, c'est cette première occultation. On ne veut pas parler de la mort parce que elle apparaît comme un pur et simple anéantissement. Donc d'une certaine façon, il n'y a rien à dire, elle n'est plus un passage. Et nous sommes à une époque où, comme le disait très bien Philippe Ariès, le grand historien français de la mort, la mort nous est proposée comme une mort sèche. Elle a été déritualisée. Et Michel Landa est tout à fait conscient de ce problème. Mourir dans cette case vide de l'hôpital, loin des siens, les siens qui sont eux-mêmes d'ailleurs affairés, qui ont autre chose à faire, et qui, par exemple, pour voir une série télévisée où il y aura des morts peut-être, voire même une série qui parle de la mort à l'hôpital, comme il y avait Urgence autrefois, eh bien vous voyez, pour ne pas voir, pour voir leur série, ils ne vont pas aller visiter le mourant. Bon, ils ont d'autres choses à faire, tout le monde est affairé, bien sûr, à ses propres divertissements. Donc ça, c'est cette solitude dont il parle qui est extrême. Et de l'autre côté, la perte de tout rituel, le fait qu'il n'y a plus de pensée de la mort. Or, quand on voit toutes les sociétés les plus primitives, les plus anciennes, ce qu'on appelle les sociétés traditionnelles, il y a toujours un accompagnement de la mort. Celui qui meurt rassemble autour de soi les siens, parfois il demande pardon, parfois il doit reconnaître ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il voudrait faire, il va remercier aussi, souvent pardon et merci, ce sont les deux paroles très élémentaires qui restent à la fin. Mais aussi, il est celui qui va partir vers l'autre monde, va rejoindre les ancêtres, il va rejoindre justement le monde des morts. Et alors, c'est un rituel de passage, comme il y a des rituels pour passer à la maturité, comme il y a des rituels aussi pour accéder à la fécondité. C'est très intéressant que Michel Landa fasse un parallèle entre l'accès de la femme à la fécondité et ce qu'il appelle la femme qui devient maîtresse de sa fécondité, et l'accès justement à un rituel de la mort. Mais ce qui est très étonnant chez lui, c'est que d'une certaine façon, il reste dans ce contexte, je dirais, d'un monde qui a perdu toute socialisation de la mort, c'est-à-dire d'un monde individualiste. Et il garde la perspective du consommateur. Donc vous voyez, il y avait des rituels pour accompagner la femme dans l'enfantement, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui reste? Une femme qui est un pur individu et qui doit devenir maîtresse de sa fécondité, c'est-à-dire qui doit avoir recours à la contraception et à l'avortement. Donc c'est un aspect uniquement négatif qui reste. Et puis de l'autre côté, eh bien l'individu qui risque de mourir seul, où la mort n'est plus ritualisée, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien il lui reste l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc on pourrait dire que ce que propose Michel Landa, pour la naissance et pour la mort, à savoir l'avortement et l'euthanasie, pour ainsi dire, ce sont les deux sacrements, les deux rituels qui restent à un monde qui ne conçoit plus que l'individu comme un atome isolé, qui n'a plus d'espérance d'une certaine façon, donc l'individu qui est obligé dans un dernier geste d'affirmer sa liberté de consommateur en produisant lui-même sa mort. Son autodestruction.
Est-ce que ce n'est pas là justement le problème? C'est qu'il conçoit la vie comme quelque chose à laquelle on peut accorder une valeur, et donc encore une fois quelque chose de marchand dont on peut se débarrasser ou pas?
De fait, le texte commence avec la question de la valeur vénale, et alors semble dénoncer une vision complètement marchande du monde, en disant si vraiment la misère et la solitude, on pouvait avoir une valeur marchande, quand on s'en débarrasse, eh bien, très vite, on aurait institutionnalisé le suicide assisté. Bon. Donc, la question de la valeur de la vie, c'est une question effectivement fondamentale. C'est-à-dire à partir de quel moment je peux dire la vie n'est plus digne d'être vécue, ne vaut plus la peine d'être vécue. Or, pour le dire, ça suppose que je me pose en juge de la vie, je suis désormais maître de la vie. Et est-ce que nous sommes maîtres de la vie? Voilà, ça, c'est la grande question. Nietzsche, pour parler de quelqu'un qui sur cette question est un grand allié des chrétiens d'une certaine façon, a toujours critiqué l'idée qu'on pouvait valoriser la vie. La vie est bonne en elle-même et la vraie position du sage, c'est de dire oui à la vie et non pas de se tuer justement, quelle qu'elle soit. D'où la logique chez Nietzsche de l'éternel retour, c'est-à-dire de dire, mais même si les choses vont mal, et si elles devaient se répéter sans fin mal, je dois dire oui au monde, sinon je deviens nihiliste. Donc vous voyez, la question de la valeur de la vie, c'est tout d'un coup d'avoir une position hors de la vie à partir de laquelle je vais aller juger la vie. Et ça, c'est une aberration. Et c'est une aberration très ancienne, parce que la question du suicide est une question qu'on peut retrouver, par exemple, dans la dispute d'Homère et d'Hésiode, où Homère dit « la meilleure chose, ce serait de n'être pas né », et s'étonner de franchir au plus vite les portes de l'Hadès, c'est-à-dire de mourir au plus tôt. Et très vite, Épicure va critiquer cette position lui-même en disant « bien non, on ne peut pas dire cela, parce que celui qui dit cela, soit il est déjà mort, il ne devrait pas être là pour nous dire que c'est mieux qu'il peut juger la vie et que c'est mieux de mourir quand on est né, mais en plus, il ne peut juger la vie qu'à partir de la vie qui lui reste. Et donc il y a foncièrement quelque chose qui relève d'une déloyauté à l'égard de la vie.
Et alors cette dignité dont parle Michel Landa dans son texte, est-ce que ce n'est pas, d'après ce que lui semble dire, quelque chose de purement subjectif? Ou est-ce qu'il y a une manière objective de juger de ce qu'est la dignité?
Bon, on a deux termes qui sont très forts, qui sont le terme de droit. D'abord, est-ce qu'il y a un droit au suicide? Est-ce que quand quelque chose est possible et n'implique pas des sanctions pénales, est-ce que c'est nécessairement un droit? Réclamer un droit, c'est dire que c'est bon et que c'est bon pour le bien commun. Donc il faudrait déjà estimer que le suicide est bon pour le bien commun. Bon, ça c'est une première question. Et vous voyez bien que dès qu'on commence à dire que le suicide est bon pour le bien commun, on peut imaginer des sociétés qui vont donc organiser le suicide de certaines personnes et même le promouvoir, le favoriser. C'est-à-dire que désormais, le suicide est organisé par la société comme quelque chose qui est tout à fait normal. Mais alors, vous voyez, on va inciter à un certain moment les gens à se suicider. Vous avez ce film qui passe en ce moment, qui s'intitule Plan 75, où l'idée, c'est d'encourager les gens à 75 ans à disparaître. Et alors, vous avez des publicités, des slogans, des choses pour dire que c'est très bien, vous laissez place à la génération d'après, vous n'êtes pas un poids pour la sécurité sociale, vous voyez, des choses de ce genre. Et donc, à partir du moment où ça devient un droit, c'est-à-dire qu'on devra encourager le suicide. Ça, c'est un premier point. Donc, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est un droit? Deuxième chose, la dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité? Si la dignité est purement relative, et c'est le sous-entendu de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui prône chacun de mourir dans sa vision de la dignité. À ce moment-là, d'abord, il y a des matins où je me lève et je me sens indigne, et puis tout d'un coup, je me sens digne le soir, ou je me sens digne le matin. Et pas... c'est très fragile. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'à un moment, on se tue, à un moment donné, parce qu'on s'est senti indigne, alors que le lendemain, on allait se sentir digne. Bon, c'est tellement fluctuant ce que nous sommes qu'il y a quelque chose qui manque de sérieux. Voilà. La question de la dignité est en plus pensée à l'envers, ici. D'une part, la dignité suppose une grandeur, hein, une certaine grandeur. Et justement, ce qui est grand, c'est précisément non pas ce qu'on va détruire. Donc vous voyez, le fait que la dignité puisse être liée à une autodestruction, que ce qui est digne s'autodétruise, pose un énorme problème, mais surtout, il y a un autre aspect, c'est que la notion de dignité n'est pas liée à la notion de droit. La dignité est liée à la notion de devoir. Obtenir une dignité, c'est obtenir toujours une responsabilité. Dans le langage ancien, la dignitas qui était accordée aux Romains, c'était tout d'un coup une fonction qui était pour le bien des autres. Et là, on voit bien que la notion de dignité, au lieu d'être pensée comme responsabilité pour les autres, est pensée uniquement d'un point de vue individualiste.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un troisième terme, Fabrice Hadjadj, qui est galvaudé par ces penseurs, à savoir le terme de liberté? Présenter la destruction comme l'ultime liberté, est-ce que ce n'est pas là aussi problématique?
Oui, on est dans quelque chose qui est très ancien, qu'on pourrait voir chez Sartre, par exemple. Il a voulu montrer que toute la vie humaine dépendait de la liberté. C'est-à-dire que je pourrais dire, je n'ai pas choisi mon corps, mon corps m'est donné. Mais non, Sartre dit, je choisis mon corps, parce que, d'une certaine façon, je peux toujours me tuer. Si ce corps ne me plaît pas, je peux toujours me tuer. Et à un certain moment, l'idée de « je peux toujours me tuer » devient l'affirmation suprême de la liberté humaine. Se tuer, c'est la capacité qu'a l'homme de s'évader de n'importe quelle situation. Et la chose peut être tellement dure, mais c'est ce que diront aussi certains stoïciens, même s'il y a une ambiguïté dans le stoïcisme, vous savez, comment s'appelle-t-il, Charles Baudelaire disait le stoïcisme, religion qui n'a qu'un seul sacrement, le suicide. Parce que les stoïciens disent, voilà, la porte est toujours ouverte. Mais en même temps, les stoïciens disent autre chose. Ils disent que la grandeur du sage stoïcien, c'est d'endurer et de traverser les choses les plus difficiles jusqu'au bout. Donc il y a une ambivalence dans le stoïcisme. À la fois, ils disent, tu peux toujours te tuer, mais en fait, le vrai sage ne va pas le faire. Bon, il y a le cas, bien sûr, de Sénèque qui se tue, bien sûr. Il y a le cas de Caton qui se tue, qui vont être des figures mises en avant par le monde latin. Mais en réalité, il y a quelque chose qui ne tient pas ici, parce que ça n'est pas une évasion. Si c'est un anéantissement, où va-t-on? Je veux dire, on ne va nulle part. Derrière ça, ça n'est pas une liberté. Cependant, et c'est là où il faut quand même être juste avec ce que dit ce texte, le désir de mourir peut exister. On peut avoir envie de mourir dans certaines situations. Il me semble que Marthe Robin disait qu'elle avait parfois de telles souffrances que si elle avait un revolver à côté d'elle, elle se serait tiré une balle dans la tête. Et on peut imaginer que si vous mettez une arme à portée même d'un grand saint, si vous voulez, mais qui est dans une souffrance telle où il se dit « mais si tu appuies sur ce bouton, tu mets fin à cette souffrance », eh bien, il va peut-être le faire. Donc, le vrai drame ici aussi, c'est que les gens sont seuls, qu'ils ne sont pas entourés. Donc, derrière le désir de mort qui apparaît dans des situations de grande souffrance, si on n'est que dans un monde où on ne peut qu'appuyer sur des boutons en étant entièrement isolé, eh bien on cherchera le bouton qui interrompra nos souffrances. Mais si on est dans une communauté, et c'est là où on retrouve la question du rituel et de la communauté, à ce moment-là, on sera porté par cette communauté et les témoignages d'amour, c'est toute la logique aujourd'hui de ce qu'on appelle les soins palliatifs. Mais c'est cet enveloppement du mort et même de celui qui souffre, parce qu'il faut aussi séparer la question de la mort et de la souffrance. Parce que derrière, ce n'est pas le désir de mourir qu'il y a. C'est le fait qu'on ne supporte plus la souffrance. Qu'elle soit une souffrance morale, c'est-à-dire on se sent indigne parce que les autres nous regardent en nous disant « bah voilà, tu fais pipi sur toi, tu n'es plus un être humain » ou « tu ne peux plus faire du foot ou faire un entraînement de sportif, tu n'es plus un être humain ». Donc, vous voyez, toutes les catégories, voilà, j'ai personne qui disent « je suis indigne de vivre parce que je ne peux plus danser en discothèque, bah voilà, donc je me tue ». Bon, mais ça, c'est le regard qui est porté sur la personne, souffrance morale. Et de l'autre côté, souffrance physique. On doit tempérer la souffrance, on doit faire en sorte de donner des antidouleurs, ça c'est certain, et autant que possible, on doit rendre la souffrance supportable. Et ça, il n'y a pas d'interdiction là-dessus, on ne dit pas « tu souffres, le martyr, tant mieux », vous voyez, c'est pas possible. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'on doit être là pour continuer à poser ce regard qui montre aux mourants ou à celui qui se sent indigne, qu'il est encore digne. C'est ça qui est fou. Et là, on est dans quelque chose où, d'une certaine façon, Michel Landa a accepté qu'on puisse porter des regards d'indignité, ou qui ôtent à certaines personnes toute dignité, de telle sorte que chacun va s'estimer lui-même plus digne et va se tuer. C'est toujours un problème, hein, le suicide. Est-ce que c'est moi qui me tue, moi, si je me suicide. En fait, souvent, je me tue parce que d'autres m'ont regardé déjà comme un mort. et j'ai déjà été assassiné par le regard des autres. Donc, est-ce que c'est moi qui me tue? Voilà. Je suis souvent que l'instrument dans le suicide. Hein. Bon. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça n'est que moi que je tue? Mais non, si je me tue, je vais toucher, parce que je suis un être social, là encore, dans cette dimension-là, je ne suis pas un simple individu, eh bien je vais toucher d'autres. Si moi, Fabrice Adjadj, père de famille, professeur pour de nombreux élèves qui parlent dans cette émission, parce que ça va très mal, je décide de me tuer, mais j'enfonce aussi un couteau dans le cœur de toutes les personnes qui m'ont suivi jusque-là. Donc vous voyez, c'est pas seulement moi et moi. Et là, on voit que, en fait, le point de départ, c'est une anthropologie complètement individualiste.
Justement, Fabrice Adjadj, quelle doit être la place du mourant pour les vivants?
Ça, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, dans une société de l'efficience, de la performance, une société où tout doit être marchandisé, il faut être un grand compétiteur, c'est la vision aussi néo-darwinienne, hein, vous voyez, la lutte pour la vie, c'est le meilleur qui l'emporte, eh bien, dans ce type de société, il n'y a pas de place pour le mourant. Le mourant qui n'est plus efficace, il est déjà réduit à un déchet. Et il faut s'en débarrasser. Et d'ailleurs, autre exemple, hein, il dit « celui qui est atteint d'une maladie mentale hein. ». Michel Landa parle de la présence de certaines maladies mentales comme une remise en question fondamentale de notre société. Mais voyez, au lieu d'entendre la remise en question de la société, de cette société de la performance, il dit bah, « bon, il faudrait éliminer les trisomiques, voilà, d'où maîtresse de sa fécondité, la femme va éliminer le trisomique, et puis de l'autre côté, il va falloir s'éliminer soi-même quand on se sent indigne, quand on n'est plus dans notre compréhension de la performance. » Or, il y a eu des sociétés où les mourants partaient en éclaireur. Ça, c'est la première chose. Et donc, ils étaient chargés du message des vivants comme étant celui qui allait être le plus vivant. Vous voyez, ils partaient auprès des ancêtres, auprès de Dieu. Donc, c'était tout autre chose. Le mourant était l'avant-garde de l'humanité vivante. Donc ça, c'est vrai que ça a disparu. Et puis, l'autre chose, c'est que le mourant est toujours un maître de sagesse. Même s'il hurle et qu'il crie qu'il ne veut pas mourir, je ne parle pas de celui qui dit merci, pardon, et qui part en paix, rassasié de jour. Ça, c'est un idéal, bon, très bien, il existe, hein, et il y a des personnes qui ont une exemplarité. Mais le mourant accompagne le vivant parce qu'il lui rappelle toujours qu'il va mourir. Et il lui rappelle que puisqu'il va falloir tout perdre, il va falloir déjà donner ou vivre conformément à cette mort imminente. Donc, il est toujours porteur d'une sagesse essentielle, le mourant. Souviens-toi que tu vas mourir. Memento mori. Et pas un memento mori intellectuel, cérébral, mais concret. Et alors, quand on est dans sa proximité, pour avoir côtoyé des mourants, eh bien, on revient à notre vie de vivant, souvent avec plus de gratitude. On peut tomber dans une sorte de désespoir, mais je pense surtout qu'on se rend compte de la valeur des petites choses, des petits gestes. Et c'est là où il y a un enjeu vraiment fondamental.
Est-ce qu'on pourrait dire finalement que la philosophie qui sous-tend à cette vision, c'est qu'il faudrait se saccager pour ne pas se sacrifier ?
Oui, c'est peut-être le vrai problème. Vous savez, le suicide a été vu par beaucoup de philosophes, notamment Emmanuel Lévinas, comme un refus de mourir. Au lieu d'accepter la passivité du mourir, le fait que je suis pris par quelque chose qui me dépasse, je veux encore en faire une production individuelle de moi-même. Et donc, le refus du mourir fait qu'on produit soi-même sa mort. Donc, il y a un refus de mourir. Et puis, dans le désir de mort, bien sûr qu'il y a l'idée de continuer à vivre, mais on voudrait faire de sa mort une offrande. Diogène, vous savez, c'est plutôt le maître de Diogène, Antisthène, il avait un emphysème, il a dit un jour à Diogène, son disciple, « Qui me délivrera de mon mal ?» Et Diogène a sorti un petit couteau et il lui a dit voilà, ceci, maître, ce couteau. Et Antisthène lui répond, c'est le premier des cyniques, Antisthène, hein, c'est très beau, il lui répond, j'ai dit de mon mal, non pas de la vie. On ne veut pas être délivré de la vie, on veut une vie meilleure. Alors oui, peut-être que plutôt que, oui, peut-être qu'on entraîne trop les gens vers la déchéance physique. Si on avait un plus grand sens du sacrifice, du martyre, ben on aurait des occasions de mourir dans une vraie dignité, celle qui est sacrificielle, avant d'être entraîné dans les mouroirs.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Michel Landa, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé, Clotilde Césari à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.